Salut, c'est la revanche des hérissons.
La revanche des hérissons.
Une émission en non-mixité, trans, PD, green, meuf et féministe.
Ça va piquer.
Ça va gratter.
On parle de l'actu,
on fait des reportages,
on dit nos coups de cœur.
On s'amuse.
On met de la musique. On parle de lutte.
On prend la parole
et on la donne.
Et aussi, on fait un agenda.
Vous connaissez l'histoire de Paf le hérisson ? C'est un hérisson qui traverse la route et paf, le pneu.
Bonjour et bienvenue dans La Revanche des Hérissons, émission transpédéguine et féministe sur JetFM 91.2. C'est diffusé chaque lundi à 17h. Et cette semaine, on parle d'islamophobie et de la loi sur les séparatismes.
Pour cette émission de mai, on avait fort envie de parler de cette loi pourrie qui vient de sortir. Elle s'appelait Loi contre les séparatismes en décembre dernier. Elle était dans les cartons. Elle s'appelle aujourd'hui Loi confortant les principes républicains. L'Assemblée nationale l'a adoptée en première lecture le 16 février. Le 12 avril, le Sénat, lui, a voté en première lecture ce projet de loi nettement durci. Notamment en proposant des amendements qui réduisent de plus en plus les droits des femmes musulmanes. On avait envie d'en parler, parce que partout en France, c'est toujours encore plus la déferlante islamophobe. On pourrait faire une liste, mais elle n'est pas exhaustive. Il y a une journaliste récemment, portant le voile, qui a été menacée de mort. La porte d'une mosquée nantaise incendiée. Des tags islamophobes retrouvés sur les murs d'une mosquée à Rennes. Une mosquée du Mans, menacée par un néo-nazi. Un homme qui a tenté d'écraser un père devant sa famille à Dole. Sans compter le lynchage médiatique et gouvernemental des chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les discriminations raciales, alors que des enseignants de Sciences Po Grenoble, accusés d'islamophobie, sont soutenus par toute une administration.
On avait envie de comprendre, de lire et d'entendre. Et puis, on a écouté l'émission de nos camarades de Dégenré, du mois d'avril, intitulée « Contre l'islamophobie, deuxième volet ». Dégenré, c'est une émission féministe qui passe sur Radio Campus à Grenoble, et aussi sur radiorageuse.net. Nous avions à la revanche déjà rediffusé le volet numéro 1 qu'on avait déjà beaucoup aimé. Mais là, ça déboîte. Trois militantes grenobloises témoignent et disent leur colère, en vrai, leur rage. Alors voilà, on a eu envie, une nouvelle fois, de partager le travail de nos camarades. Merci énormément à vous d'avoir récolté ces paroles précieuses, ciselées. Merci énormément à Jouda, Sabrina et Abby de les avoir livrées.
Le gouvernement nous dit que l'islamophobie est un terme inapproprié. Bon ben, on n'est pas d'accord. En voici une définition qu'en a donné le podcast Kif Taras, qui y a consacré une émission entière récemment. Islamophobie, un mot, des mots.
L'islamophobie est définie strictement comme l'hostilité envers l'islam ou les musulmans en général, dans le dictionnaire, et recouvre en pratique une réalité sociale, hélas, large. Évidemment, nous précisons à toutes fins utiles que l'islam est une religion et non l'une des races biologiques théorisées au XVIIIe siècle pour asseoir une idéologie d'hiérarchisation des êtres humains, mais être perçu comme étant de confession musulmane en France, de nos jours, c'est potentiellement tomber dans une catégorie de la population avec ses associations d'idées, ses assignations, ses discriminations, et c'est dans ce sens que nous l'évoquerons dans cet épisode de Kif Taras.
Alors voilà, c'est limpide. Et refuser de nommer ce racisme spécifique, c'est ne pas donner les moyens de lutter contre. On rappelle d'ailleurs que le CCIF a récemment été forcé à la dissolution, alors que c'était un des rares collectifs qui permettait de lutter contre cette islamophobie. Et en vrai, le gouvernement ne silencie pas seulement les victimes des actes islamophobes. Il alimente ces actes, en continuant de manière de plus en plus acharnée à produire des lois islamophobes à la pelle. notamment avec ce dernier projet de loi qui vient de sortir et qui est la continuité d'une longue politique raciste dans sa longue tradition d'État colonial, dont l'historique est clairement établi au début de l'interview. À bas le racisme d'État.
Avant de passer à la diffusion de l'émission de Dégenré, on propose de décortiquer les 47 articles du projet de loi confortant les principes républicains ou la loi contre le séparatisme.
Donc on commence par l'article 1 qui est l'obligation de neutralité dans la fonction publique et qui signifie concrètement l'interdiction du port du voile au travail. Cette interdiction de port du voile, c'est déjà quelque chose qui est appliqué au travail suite à une décision de jurisprudence de 2013. Mais du coup aujourd'hui, elle rentre plus fort dans la loi puisque une loi passe au-dessus de la jurisprudence. L'article numéro 2 permet de renforcer le pouvoir des préfectures sur les mairies. Concrètement, ça fait que si des mairies prennent des décisions qui ne plaisent pas à l'État, le préfet peut venir casser la décision et interdire des trucs qui se passent. L'article numéro 3, qui permet d'étendre le fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes. C'est un fichier qui rassemble toutes les personnes qui ont été condamnées ou mises en examen dès l'âge de 13 ans pour des infractions à caractère terroriste. Et du coup, là, l'article 3 de cette loi contre le séparatisme permet de rajouter les personnes condamnées pour apologie du terrorisme. Alors, l'article 4 de la loi contre le séparatisme stipule que les menaces, violences ou intimidations contre un agent public pour des motifs liés à des croyances ou à des convictions sera punissable de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Ensuite, il y a les articles 6 à 12 qui viennent plutôt sur le contrôle des associations, notamment via le contrat d'engagement républicain. Donc c'est un contrat que chaque asso devra signer sûrement au moment de l'enregistrement. Et ça vient notamment faciliter la dissolution des assos via deux nouveaux motifs qui sont 1. L'incitation à porter atteinte à la dignité de la personne et 2. Les pressions psychologiques et physiques qui permettent d'obtenir des actes ou des abstentions préjudiciables. Du coup, en fait, c'est des articles qui permettent de faire le lien entre l'association, les actions individuelles des membres en fait, de l'association, et du coup de pouvoir faire pression sur des individus en utilisant l'asso, ou bien de du coup venir dissoudre l'association. Donc, les articles 13 à 17 parlent de succession, monogamie et certificat de virginité. C'est un peu technique, mais l'article 13, il vient renforcer la réserve héréditaire, qui est le minimum qu'une personne est censée toucher dans un héritage. C'est fait pour que si des gens déshéritaient, notamment leurs filles, la loi, en fait, elle vise les musulmans, mais sans les nommer. Là, ce serait l'idée que si quelqu'un déshérite ses filles, par exemple, et que les filles pourraient faire valoir leur droit à une part d'héritage, même si dans le testament, il n'y en avait pas le droit. Enfin, là, c'est dans le cadre où il y aurait la législation d'un pays tiers qui rentrerait en compte. Réaffirmer que le droit français est supérieur aux autres droits et que du coup, si la personne a la nationalité française, elle pourra plus faire valoir ses droits. Les articles 14 et 15 parlent de polygamie et qui, du coup, viennent renforcer le fait que des étrangers qui seraient polygames n'auraient pas le droit ni à un titre de séjour ni à la pension de réversion. Toucher la retraite d'un conjoint décédé ou ce genre de thune, quoi. L'article 16, un article de loi qui vient criminaliser le fait de réaliser des certificats de virginité. Les gens risquent un an de prison et 15 000 euros d'amende pour avoir rédigé un certificat de virginité. Il faut quand même savoir que ça, souvent, c'est des meufs qui en ont besoin pour pouvoir se marier ou pour pouvoir faire valoir des trucs dans leur famille. Du coup, de venir criminaliser le fait de faire ces certificats, c'est en fait venir foutre encore plus dans la merde ces meufs. Et enfin, l'article 17 stipule que dans le cadre d'un entretien avec les futurs mariés, si un fonctionnaire a un doute sur le consentement d'une des deux personnes qui veut se marier, maintenant, il sera contraint de saisir l'instance judiciaire. Jusqu'à maintenant, c'était son libre arbitre de dire « oui, je saisis, non, je ne saisis pas, oui, je signale que là, ça a l'air chelou ou pas », maintenant, il sera obligé de le faire. Alors ensuite viennent des articles qui sont plus liés à la scolarité à domicile, sachant que voilà, l'article 18 par exemple interdit la scolarité à domicile dès septembre 2021, ce qui veut dire que chaque enfant âgé de 3 à 16 ans sera obligatoirement inscrit dans une école. L'article 19 dit qu'il y aura quand même des possibilités de dérogation, mais surtout si l'enfant est malade. L'article 20 stipule que chaque enfant en âge d'être scolarisé devra avoir un numéro. C'est les municipalités qui doivent donner un numéro à chaque enfant en âge d'être scolarisé, donc à partir de 3 ans, et que si le numéro temps ne rencontre pas d'inscription dans un établissement, bah là, ce sera le moment de pouvoir aller punir ses parents, ou demander des comptes en tout cas. Toujours dans le volet scolaire de la loi, là, il y a les articles 21 à 24 qui viennent renforcer le contrôle sur les écoles hors contrat et les fédérations sportives. Donc c'est en cas de manquement, les écoles pourront être fermées plus facilement et les profs ou les directions pourront obtenir des interdictions d'exercer ou de diriger. Il y aura plus de contrôle sur la sécurité des élèves, mais aussi sur le programme scolaire. Alors, sinon, il y a l'article 25 qui aurait pu s'appeler l'article Samuel Paty. Je crois que c'est vraiment cette façon en France de faire des lois tirées d'un fait divers. Voilà, donc il y a le délit de mise en danger de la vie d'autrui via la diffusion d'informations personnelles sur les réseaux sociaux. Donc ce sera punissable de 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison, voire 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison si la victime est dépositaire de l'autorité publique ou en mission de service public. Nous avons les articles 27 et 28 qui prévoient que l'État puisse donner son avis sur l'attribution des logements sociaux pour favoriser la mixité sociale. Ça veut dire qu'ils peuvent intervenir auprès des bailleurs sociaux. On ne comprend pas tout à fait ce que ça vient faire là, mais sûrement il y a un truc que je n'ai pas compris. L'article 29 vient parler des associations cultuelles, donc des associations de culte, qui dorénavant seront tenus d'avoir un organe délibérant dans leur statut. En fait, c'est histoire qu'un groupe ne puisse pas prendre le contrôle de l'association facilement. Donc les articles 30 à 35 viennent inciter les associations cultuelles, donc les associations de culte, à basculer du régime associatif loi 1901 au régime loi 1905, c'est-à-dire la loi de séparation entre l'Église et l'État. Et pour ce faire, ils viennent favoriser l'autofinancement via les rentes, les revenus immobiliers. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était un peu complexe et pas super intéressant. Mais les articles 36 à 39, donc pour les associations cultuelles, loi 1905, ils vont être obligés de déclarer les dons venus de l'étranger, notamment au-delà de 10 000 euros. Et l'État se réserve le droit de les suspendre, ces dons, c'est-à-dire de les confisquer finalement, si les agissements de l'asso ou d'un dirigeant ou du donateur constituent une menace réelle pour la société. Voilà, alors enfin, là, je vous laisse apprécier quand même le côté assez vague et ouvert de la définition, une menace réelle pour la société, article 41. Si on porte atteinte à la liberté de culte de quelqu'un, ce sera maintenant passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. L'article 42 offre la possibilité de juger la haine en ligne, à savoir la provocation au crime, l'incitation à la violence ou l'appel à la haine et à la discrimination. Et du coup, ce sera possible de juger tout ça en comparution immédiate si il n'y a pas une direction de publication concernée par le contenu visé, quoi. La peine encourue passerait à 7 ans de prison et 75 000 euros d'amende si les propos étaient tenus dans un lieu de culte. Bon courage, il en reste 3. Donc nous avons l'article 45. En cas de provocation à la haine ou au terrorisme, ce sera possible de condamner à une interdiction de paraître dans un lieu de culte. Et cette interdiction pourra durer jusqu'à 3 ans. L'article 46, interdiction de diriger ou d'administrer un lieu de culte pendant 10 ans en cas de condamnation pour terrorisme. Et enfin, l'article 47 permettra d'intégrer la possibilité de fermeture administrative temporaire d'un établissement de culte. Et donc, ça va être intégrer cette possibilité-là de fermeture administrative temporaire à la loi de 1905. Donc, les préfectures pourraient fermer un lieu de culte si l'activité incite à la haine, encourage à la discrimination ou facilite la commission de crimes ou délits. Alors pour la petite histoire, il y a quand même la Croix qui s'inquiète que, bon là avec le gouvernement en place ça va, mais imaginons qu'un jour un gouvernement se saisisse de cette loi pour dire que le clergé catholique est discriminant puisqu'il n'y a que des hommes en son sein. Donc là ils ont commencé à s'inquiéter. Voilà, bon c'était un peu, du coup là on voulait rappeler là tous ces articles et essayer de donner à voir qu'est-ce qu'il y a dans cette loi. Alors ça reste une loi, c'est toujours un truc théorique, après les tribunaux s'en saisissent ou pas et comment ou quoi, mais en fait, en tout cas, moi je trouve que ça vient bien montrer l'ampleur là des changements. Ça vient bien montrer aussi la manière dont ça vise les personnes musulmanes, l'islam en général, mais sans le nommer, toujours. Enfin, même si la croix vient s'inquiéter à un moment, finalement, c'est quand même très très ciblé quoi comme loi.
Et voilà, vous êtes toujours sur La Revanche des Hérissons, c'est sur JTFM 91.2, et aujourd'hui on parle d'islamophobie et de la loi sur les séparatismes. On passe donc maintenant à la rediffusion de l'émission Contre l'islamophobie, le deuxième volet de l'émission Dégenrée sur Radio Campus Grenoble.
Bonjour, vous êtes bien sur Dégenrée, l'émission féministe pour déranger, et on est là aujourd'hui pour parler d'islamophobie. Alors on avait déjà fait un premier volet d'émission en lien avec l'islamophobie à l'automne, mais malheureusement ces questions sont toujours tristement d'actualité et donc on a voulu y consacrer un deuxième volet.
Oui, parce que le 21 mars, dans toute la France et donc aussi à Grenoble, il y a eu des manifestations contre la loi islamophobe et liberticide, entre autres à l'appel du Front contre l'islamophobie. Et ben, du coup, voilà, on a eu envie d'inviter, de faire un petit plateau pour donner la parole. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. En tout cas, bienvenue et merci.
Bon ben, Jouda, je suis maman de 4 enfants, je travaille, je suis militante féministe française, voilée, engagée et très déçue et en colère.
Alors, je suis Sabrina Chebbi, je suis cinéaste, documentariste, je travaille particulièrement sur l'histoire de la colonisation, son actualité et voilà. Je suis aussi concernée par les questions d'islamophobie.
Je suis Abby, donc je suis membre du FIQP. J'ai grandi en France et effectivement j'ai un peu de colère parce que je suis fatiguée de cette société qui rejette et qui rejette encore.
Alors, pour commencer, on a laissé traîner nos micros à la manif du 21 mars. On a fait un micro-trottoir et on vous laisse écouter ça.
Salut, aujourd'hui on est à la manif contre l'islamophobie. Toi, t'es venue pourquoi ?
Parce que je suis contre les discriminations. J'ai l'impression qu'il y en a, quoi. Donc c'est pour ça que je suis venue.
Alors moi, je suis à l'UNEF, le syndicat étudiant. Donc on est là aujourd'hui parce que on pense que c'est très important de montrer que le racisme et l'islamophobie, ils ont sa place, ils ont leur place ni dans la société ni à l'université. Et que ça, pour nous, voilà, ça, c'est juste une forme de racisme sous couvert d'une pratique, d'une religion, et que personne ne doit être discriminé en raison de ses croyances ou de son apparence, de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle, de son genre, etc. quoi.
Pour tout ce qui est islamophobie aussi, parce qu'il y a plein d'actions menées contre les syndicats, comme on l'a vu avec l'UNEF.
Enfin, moi, j'ai pas envie dans mon pays des personnes soient discriminées, tout simplement, peu importe pourquoi. Et que ça me semble grave, d'autant plus qu'aujourd'hui, en fait, on remet en question ce terme islamophobie. Alors que, voilà, comme je l'ai dit, on sait très bien que ça existe, et ça me semble très grave. De plus en plus de déclarations, de politiques qui sont menées à l'encontre de ces personnes-là, donc je pense que c'est important d'être ici.
Parce que l'État, il est raciste et il est contre ma vie, et donc j'ai pas trop le choix.
Vous, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Parce qu'on est musulmanes, voilà, et on en a marre, en fait, de toutes ces discriminations, et on est contente de voir qu'il y a autant de monde et autant de... qu'on peut tous vivre ensemble, en fait, voilà. Il n'y a pas que des femmes voilées aujourd'hui.
Bah, c'est un peu, je rejoins un petit peu ma collègue, c'est parce qu'en fait, on a envie de vivre ensemble et que ça reste pour moi des détails, en fait. Hein. Du moment où il n'y a pas de prosélytisme qui est fait, et que c'est vraiment pour, je parle pour une femme qui est voilée en l'occurrence et qui veut ramener sa compétence et toujours la renvoyer à sa religion alors qu'elle est là juste pour donner, enfin pour proposer sa compétence. Je trouve que c'est, j'ai l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt, il y a des problèmes tellement plus importants. Et on nous fait miroiter, quoi. Et on nous met les uns sur les autres, et je trouve ça triste. Et je trouve ça sympa que, du coup, qu'il y ait une communauté plurielle, et ça me fait plaisir, quoi. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble important à parler aujourd'hui et en ce moment ?
Moi, je pense qu'il faut vraiment réagir rapidement parce qu'en fait, plus largement, hein, le contexte liberticide, autoritaire et islamophobe et voilà, des politiques qui sont menées, en fait, finalement, il faut vraiment réagir parce que jusqu'où ça va aller sans qu'on réagisse. Donc, j'ai envie de dire, réagissons tous et toutes.
Bah, par rapport aux dérives, quand même, du gouvernement, je pense que le climat du Covid et tout favorise un peu ces prises de position-là et ces initiatives. Et du coup, ça instaure un peu la peur aussi aux mobilisations.
Un peu tout, les discriminations en général et le fait qu'on fasse une convergence de toutes les luttes. Après, je sais pas, dans tous les cas, je milite depuis que je suis enfant, donc c'est dans la nature des choses. Voilà.
Moi, j'ai un seul mot à dire, la liberté. Et la liberté, la liberté d'expression, la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, la liberté de porter un voile, la liberté de s'habiller comme on a envie. Et il ne faut pas juger la personne par rapport à ce qu'elle porte ou ce qu'elle représente.
Bah moi, c'est la transparence, en fait. Que le gouvernement soit transparent et qu'il ne nous prenne pas pour des idiots. Et qu'il y a des choses qui sont fondamentales. Enfin, vraiment, essayer de comprendre ce que l'individu traverse et de l'écouter profondément. Et c'est des choses qu'on a l'impression d'occulter complètement et que voilà, on repart sur les profits, les gains. Et puis voilà, moi c'est ce manque de transparence ou l'impression qu'il y a la manipulation nous prend pour des cons. Quoi. Voilà.
Aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est pas pour pleurer, c'est pas un discours de victimisation. Aujourd'hui, quand je vous vois devant moi, je me dis qu'on a espoir. Espoir de faire bouger les choses. Moi, j'ai espoir du changement. Est-ce que vous y croyez?
Oui.
Mon mot de la fin, c'est quoi? C'est une demande de dignité. J'ai juste envie d'être digne et d'être respectée. Je demande pas un traitement de faveur. Je demande pas d'être accueillie avec un tapis rouge et des fleurs. Je demande juste d'être acceptée et d'être considérée comme tout citoyen et toute citoyenne. Est-ce que vous trouvez ça impossible?
Non.
Alors, mon mot de la fin, c'est qu'on va tous crier ensemble du plus profond de notre cœur « Stop, stop à l'islamophobie ». Vous êtes prêts?
Oui.
1, 2, 3.
Stop, stop à l'islamophobie. Stop, stop à l'islamophobie. Stop, stop à l'islamophobie. Stop, stop à l'islamophobie.
On peut refaire l'histoire un peu de l'islam, enfin des normes, voilà. En gros, quand l'islamophobie en France, elle commence vraiment à se sentir dès que les lois liberticides et anticonstitutionnelles, elles commencent à être votées et dès les premières circulaires, hein, et tout ça, ça tourne autour du voile, hein, dès la fin des années 80. Le voile, en fait, c'est ce qui cristallise en fait cette haine, en fait, et cette construction du musulman en France comme problème et comme menace. Et en fait, on va se focaliser autour de la femme, autour des femmes musulmanes, à travers leur voile, leur tenue vestimentaire, et qu'on qualifie comme quelque chose d'oppressant pour elles. Ces femmes qu'il faut sauver du patriarcat et tout ce qui les met dans cet état. Et en fait, dès le départ, avec les affaires en 89, avec l'affaire du foulard, en 2003, pourtant, le Conseil d'État, hein, il n'a jamais été d'accord avec l'interdiction du voile à l'école et tout. Il a toujours eu une position plutôt de médiation, on va dire, mais il a toujours inscrit en fait que c'était une atteinte à la liberté des individus, une atteinte à la liberté de culte que d'interdire le voile aux personnes. Mais malgré tout, en fait, on voit que les politiques, ils ont toujours été dans l'offensive et ils ont à chaque fois fait des circulaires. On a vu la circulaire Bérou qui incitait en fait les établissements scolaires à inscrire dans leur règlement intérieur l'interdiction du port du voile, alors qu'en fait, c'est interdit, vu qu'il y a des normes quand même à respecter. Les droits fondamentaux, c'est pas en France, à ce qui paraît, c'est quand même pas une plaisanterie, hein, faut quand même respecter. Mais c'est pas grave. En 94, à Grenoble, Grenoble, on a l'affaire du foulard, on connaît bien, c'est notre copine qui a été au cœur de cette affaire-là. Bah, la pauvre, elle s'est fait virer de son école et elle a dû faire passer son bac ailleurs. Il y a eu cette commission Stasi qui a tout fait pour qu'en fait ce voile, et ben, c'est quelque chose, c'est vraiment l'empreinte d'une atteinte aux valeurs de la République ou à une espèce d'idée de la nation qu'on se fait. Et comme ça, on voit comment on évolue vers une espèce de propagande comme ça qui est insufflée à travers les médias, parce que les médias, ça a été vraiment un outil hein, pour diffuser cette propagande et qui entrait dans les foyers via la télévision et pour vraiment changer une mentalité en France et faire prendre conscience aux gens que c'est comme ça qu'il faut penser. Et pas autrement. Et quand on voit une femme voilée, eh bien, forcément, c'est une personne qui est potentiellement voilà, une citoyenne de second rang et quelqu'un qu'il ne faut pas respecter. Alors, dans les actes, voilà, hein, dans le bus, on t'insulte, dans la rue, on t'arrache ton voile, on peut te scarifier, on peut te. Voilà, ça a des conséquences, hein, en fait, toute cette propagande hein, dans la vie des gens. Ce n'est pas juste de la politique, des articles de presse, c'est que dans la vie de tous les jours, les gens, ils ressentent cette violence. Nous, on a des enfants qui ont vécu avec une vision de leur mère extrêmement dégradée par la société. Et ça, ça crée des dommages quand même. Hein. Il faut quand même être fort derrière pour assurer une éducation hein, pour ces enfants, qu'on continue à les éduquer avec les valeurs communes, hein, pas juste de valeurs de musulmans, hein, c'est juste de maman qui veut transmettre des vraies valeurs à ses gosses. Il faut y aller, hein, parce que les enfants, quand ils vont à l'école, ils se ramassent des choses très violentes. Et du coup, en 2011, on arrive avec une véritable, enfin quelque chose d'assez nouveau, puisque la loi contre le niqab, qu'on appelle la loi contre la dissimulation du visage, c'est une interdiction absolue d'exercer une liberté, ce qui n'est pas dans les traditions des règles en France. Et c'est ça qui choque, en fait. Et on a vu beaucoup de gens, des avocats, pas musulmans, hein, des gens qui défendent le droit, aller contre cette loi, parce que vraiment, c'est une interdiction absolue. Et c'est pas juste quand on est en face à face avec l'école, le banquier, le commerçant, où on demande à la personne de montrer son visage. C'est une interdiction absolue de circuler dans cette tenue que les femmes choisissent, pour la plupart. Mais bien entendu, on fera passer l'idée que derrière, il y a un tyran qui l'oblige à se voiler complètement. Et encore des offensives. Alors quelque chose encore une fois où on a vu le droit comment il a été encore une fois instrumentalisé et mais complètement dévoyé, c'est quand il y a eu la loi pour les nounous qui travaillent chez elles et à qui on a voulu imposer une déclaration d'appartenance religieuse, chose qui est interdite dans le code du travail, chose qui est interdite dans les droits fondamentaux. Et je veux dire, C'est une atteinte aux droits des personnes. Et pareil, le Sénat, à chaque fois, il arrive avec des amendements, des choses, mais complètement farfelues, racistes, sexistes aussi. Parce que là, en fait, on porte atteinte à la personne qui travaille dans son domicile. Et c'est-à-dire que cette personne, elle devait déclarer qu'elle portait un voile, que c'était une musulmane. Imaginez, demain, on va chercher un travail, on va dire, excusez-moi, je suis à Solidaire, non, je suis à EFO, ça vous dérange, non? Bon, bah vous me dites, hein, parce que sinon, je supprime mon adhésion. Enfin, quand même, là, on est dans le fascisme. Voilà, là, c'était clairement un pas, vraiment une belle avancée là-dessus. Hein. Et pareil, ensuite, une offensive, encore une fois, et toujours les femmes. Hein. 2012, un projet de loi contre les mamans accompagnatrices lors des sorties scolaires. Quand on fait ça, on attaque encore une fois nos enfants. Nos enfants n'ont pas le droit d'avoir, juste comme tous les autres enfants, leur maman qui accompagne lors d'une sortie. Enfin, je veux dire, s'il y a un problème, moi, j'ai vu lors des sorties scolaires, des parents posaient des problèmes parce qu'en fait ils se prenaient pour des profs. Ça, c'est un problème. Donc moi, je veux bien qu'on règle ce problème. Mais le voile, juste parce que des mamans sont voilées, c'est juste hallucinant. Et puis il y a des quartiers où il n'y a que des mamans voilées.
où la plupart des femmes qui restent à la maison parce qu'elles ne peuvent pas travailler sont des femmes voilées. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits où même les enseignants ne souhaitaient pas l'avoir, cette mesure, parce que clairement, ça allait créer vraiment des gros soucis. Donc on s'en fiche. On continue dans cette offensive. Là, dernièrement, en 2019, un truc aussi qui a fait bondir et qui fait penser à une forme de macartisme, il y a aussi à une certaine époque où on a voulu, on avait envoyé dans les universités des tableaux Excel, enfin l'éducation nationale avait envoyé des tableaux Excel pour que les enseignants disent voilà, un tel il est absent le vendredi après-midi, l'autre il a fait pousser sa barbe, elle s'est mise à porter un voile. Et là il y a eu un lever de bouclier aussi, heureusement, des universitaires qui ont refusé de remplir ces tableaux. Du coup, ensuite, ils ont très rapidement mis ça sous silence. Les médias, ils ont très vite calmé cette histoire-là. Mais là aussi, c'est une offensive hallucinante. Mais en fait, ça dit beaucoup de choses en fait, sur la France, qu'elle est devenue, elle psychote, elle devient... Enfin, y a, à certains égards, ça fait peur. Voilà, ça, c'est ça qui me fait peur et qui me met en colère. Et du coup, voilà, on pourrait encore. Et alors là, le meurtre de Samuel Paty. Et allez, on va le dire ici parce que bien sûr qu'on est choqué de ça. Enfin, je veux dire, comment on peut imaginer qu'on ne puisse pas être choqué d'une chose aussi horrible. Mais ça a permis une déferlante de mesures dont je pense certains politiques en rêvaient pour pouvoir mettre la main sur les associations, mieux les contrôler, et pas que les associations musulmanes. Alors très rapidement, on a vu un effet sur le CCIF qui a été dissous. Mais alors ça, c'est un scandale, mais personne ne dit les mots qu'il faut pour dénoncer ce scandale. C'est-à-dire, on a dissous une association qui lutte pour l'égalité des individus en France. C'est ça qu'on a fait. C'est ce qu'on a voulu faire. Ils ont plié bagage, ils sont partis se créer en CCIE. Maintenant, ils ont une portée européenne. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une absence d'associations proches de nous pour nous défendre. Il y a le CRI, il y a la coordination contre le racisme et l'islamophobie, dont je suis aussi adhérente. Mais pour moi, c'est encore une fois une atteinte à mes droits, les plus fondamentaux. Il y a eu la dissolution de Baraka City avec la saisie de tous leurs fonds. Ça aussi, c'est une association qui faisait de l'humanitaire. Allez voir ce qu'ils ont fait dans le monde. Et grosse question. Donc aujourd'hui, on se retrouve en plus avec la loi séparatisme. Peut-être qu'on en reparlera après, je ne vais peut-être pas tout dire. Mais là encore une fois, à chaque fois, on se dit « bon, ben, ça y est, là, on a fait le pire ». Mais en fait, moi, aujourd'hui, je me dis « on n'a pas fini ». On n'a pas fini parce que la dernière fois, j'entendais le président Macron qui parlait avec l'histoire des mosquées là, de Strasbourg. J'entends le prochain débat qui arrive. J'ose même pas le dire là pour pas qu'il le pompe. Mais je me dis, le prochain débat, ça va être un truc vachement de l'extrême droite, le registre de Marine. Je pense que Darmanin, il va y aller en sautant. Mais la question de la double nationalité, aujourd'hui, ça va poser question. Parce que ces gens-là qui en fait font écoutent ce qui se passe de l'autre côté de la France et qui pourraient potentiellement venir faire voter toute une communauté et tout parce que Erdogan aurait dit, là je me suis dit attention, là en fait c'est un truc encore une fois nauséabonde qui va arriver, mais j'essaye de voir jusqu'où ça peut aller. Ben parce que je suis désolée, mais on a vu dans l'histoire française où on peut aller en fait. Et la limite, elle est terrible. Enfin, et je trouve que l'histoire, en fait, en France, on n'en a pas tiré l'expérience en fait de cette histoire, et c'est dramatique. Et c'est ça, moi, que je trouve dramatique, et c'est ça qui me met en colère. Et le message que j'aurais envie de lancer, c'est de dire, en fait, on se bat pas pour le droit des femmes musulmanes à garder leur voile ou pas. On en a rien à cirer de ça, du voile, de comment elles s'habillent. En fait, on est juste en train de dire. Le droit, en fait, aujourd'hui, il est atteint. Il y a un cadre, aujourd'hui, qui est atteint. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que le droit, il est là pour protéger. De toute façon, ça fait longtemps qu'on peut plus le dire, en vrai. Mais là, en fait, c'est tellement visible et c'est tellement mis à la vue de tout le monde à la télé, dans les papiers, enfin, les réseaux.
Enfin, réveillons-nous. Enfin, réveillez-vous. Merde. C'est un des éléments sur lesquels on peut s'appuyer à la limite pour au moins pour défendre nos libertés fondamentales. Et aujourd'hui, ce droit, il est instrumentalisé par une bande de fachos qui ne disent pas leur nom et qui aujourd'hui produisent des lois liberticides. Mais en fait, ces lois, c'est nous. En fait, on est juste les laboratoires. Les musulmans en France, on est juste un espèce de laboratoire. On est en train de tester comment on réagit pas à des choses graves. On est en train de nous contrôler. On contrôlera les associations. On est en train de nous imposer un islam de France, machin. Mais en même temps, on va imposer une façon de faire aux associations, qu'elles soient musulmanes ou pas. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va se répandre dans la société. Et c'est ça. Et c'est là-dessus qu'il faut être en colère. Et c'est là-dessus qu'il faut se réveiller. Voilà.
Vous êtes toujours dans la revanche des hérissons sur Jet FM 91.2. Et cette semaine et la semaine prochaine, on rediffuse l'émission féministe grenobloise dégenrée sur l'islamophobie. C'est le moment de la pause musicale. Qu'est-ce que vous nous proposez ?
La façon dont les musulmans sont traités. Ben aujourd'hui, c'est les musulmans, avant c'était les immigrés. En fait, on trouve toujours une nouvelle. L'État français trouve toujours une nouvelle catégorie à coller. Tout ça, c'est une instrumentalisation pour cacher toutes les problématiques sociales qu'il y a dans ce pays et tous les mouvements sociaux en fait qui étaient en train de monter ces dernières années. Mais même, on peut reprendre sur ces dernières décennies en fait. Depuis toujours, les musulmans, ils sont pris en otage. Là, on est pris en otage en fait. Et en fait, on est pris en otage dans tous les aspects de notre existence, en fait, dans la façon dont on peut exister de manière culturelle. Mais en fait, on nous renvoie à un aspect de notre culture. Ça aussi, on peut expliciter aussi. On n'est pas que des musulmans, on n'est pas que des immigrés. En fait, on est des êtres qui sont constitués d'une variété d'aspects l'aspect d'abord social, le travail, le salaire, le logement, et l'aspect culturel. On appartient à différentes aires culturelles, différents pays, et on peut aussi assumer ça. Et souvent, le pays auquel on appartient, ou le pays de nos parents, c'est un pays qui a été dominé économiquement et culturellement aussi. Et ça aussi, c'est pas rien. On est dans des situations précaires juridiquement. Donc, pour certains, il y a des personnes qui n'ont pas, et des musulmans qui n'ont pas la nationalité, et des personnes, du coup, qui sont renvoyées à une situation d'exclusion extrême. Et pour ceux qui ont la nationalité, c'est une situation précaire qui est seulement atténuée, parce qu'on est toujours considérés, de toute façon, depuis le début, comme des immigrés de nationalité française. Et voilà, donc tout ça, en fait, c'est des éléments qu'on ne veut pas prendre en compte, on ne peut pas exister. Et aussi, l'aspect politique que j'ai oublié, la représentation politique qui est nulle, qui n'existe pas. En fait, on n'a même pas les moyens de se défendre politiquement. L'hémicycle n'est pas constitué, ou alors quand c'est constitué, c'est une des personnes qui sont instrumentalisées en fait pour abaisser aussi la communauté d'où elles viennent, ou les quartiers, ou la classe populaire d'où elles viennent. Donc elles doivent systématiquement se distinguer de la classe sociale d'où elles proviennent ou de leur origine. Mais voilà, en fait, toute cette politique-là, cette prise d'otage, en fait, elle a été mise en place aussi pour occulter. Donc ça, il faut aussi que la gauche et les mouvements de gauche réalisent que leur lutte, elles ne peuvent pas avoir lieu tant qu'ils ne prennent pas en compte la question de l'islamophobie. Parce qu'en fait, on est le prétexte, en fait, pour que toute la casse sociale de ce pays ait lieu, avec ce qui se passe en ce moment sur la réforme du chômage, etc. Et ça a eu lieu précédemment. C'est une habitude que la France opère systématiquement.
Et pour compléter encore ce qu'elle disait, c'est qu'économiquement, ça entraîne une grosse perte pour la France, puisqu'on est rentré, la France est rentrée dans une ère ultra-libérale. C'est que ça entraîne aussi la fuite des cerveaux, parce que mine de rien, tous ces enfants dits d'origine immigrée ou étrangère, peu importe comment on nous qualifie, bon, on est simplement des Français, hein, et du coup, on fait des études, parfois ont été boursiers, sont formés, sont compétents, très compétents, innovants, très innovateurs. Et qui c'est qui récupère ces pépites ? Et ben, du coup, ce sont les pays étrangers, style le Canada, style les États-Unis. Vous allez voir la diaspora française aux États-Unis. Nous, on est français qu'à l'étranger. Hein. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est impressionnant. Toute notre jeunesse, toute cette jeunesse formée, partent à l'étranger et comme je le disais, c'est le Canada, les États-Unis, les pays du Golfe, la Chine, beaucoup, la Chine qui les récupère et certains envisagent aussi de retourner dans le pays d'origine de leurs parents. Donc ça aussi, la France économiquement ne prend pas conscience de cette perte. Et je vous assure que quand ils partent, contrairement aux Français, à nos compatriotes blancs, on ne va pas se mentir, blancs, eux, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas parce que pour une fois, on a reconnu leur humanité, leurs compétences, et t'es pas rejeté parce que tu t'appelles Mohamed ou Fatoumata. Et ça, c'est très important. Ils ont la liberté d'être ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi la France refuse cette société inclusive qui ne peut que lui apporter, entre guillemets, une certaine grandeur, parce que je pense que la France est restée figée au temps de son empire colonial, esclavagiste, etc., et qu'elle a du mal à se rendre compte, tout empire arrive à son apogée, et à un moment, il y a le déclin. Et il faut qu'on se le dise, la France est en déclin. Donc ensuite, il y a cette peur de la théorie qu'on a balancée il y a quelques années, moi j'ai pas la mémoire des dates, la théorie du grand remplacement, où du coup, on va tous venir, on va remplacer, machin, etc. Non, les gens, non, absolument pas. L'idée me paraît tellement absurde que moi, à l'époque, j'ai pas accordé plus d'importance que ça, tellement ça me paraissait absurde. Mais après, je sais pas, je vois les politiques, pour moi c'est une poignée qui essaie de semer la haine, comme elle disait Sabrina, occulter les problèmes essentiels et la construction économique et sociale de ce pays qui est de plus en plus en danger, le système de santé. Aujourd'hui, on doit affronter le Covid qui a entraîné des dégâts, qui a précarisé énormément de gens. Moi, j'entends pas parler de ça, mais on est focalisé sur la jeune fille qui va à la fac avec un foulard sur la tête. Des fois, j'ai l'impression que je suis dans un film, en fait, où je fais un cauchemar et que je vais me réveiller. Ça me paraît surréaliste. Et comme tu disais, quand j'ai l'impression qu'on a atteint le paroxysme, boum, il y a une autre bombe qui éclate. Et moi, le deuxième élément qui me fatigue aussi, c'est cette histoire d'essentialisation, où j'ai l'impression qu'on me demande, qu'on nous demande à chaque instant de justifier ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Je reviens à l'époque où on s'était rencontré Judas, c'était quand il y avait eu Charlie. Ça avait été un tel déchirement, et je vais vous raconter une anecdote. Je venais d'arriver dans l'unité dans laquelle je travaille et j'ai une collègue de boulot, syndicaliste, qui m'appelle et qui me dit, alors mon nom de famille c'est Koulibaly, je l'assume avec fierté, et qui me dit, mais Abby, est-ce que tu sais ce qui vient de se passer ? Donc du coup, j'ai dit oui, je sais ce qui vient de se passer. Elle me dit, c'est grave, hein ? J'ai dit oui, Jacqueline, elle s'appelait Jacqueline. Je dis oui, Jacqueline, c'est grave, c'est même très grave. Oui, mais c'est très, 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 très grave, tu te rends compte ? Donc du coup, je dis oui, c'est grave, c'est très, très, très grave, je suis d'accord avec toi. Je dis, mais maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que tu veux ? Oui, il s'appelle Koulibaly, c'est ton frère, c'est ton machin, etc. J'ai dit, tu sais quoi ? J'ai dit, combien même ce serait mon fils ? Est-ce que tu penses que je suis responsable des actions des autres êtres humains ? Est-ce que toi, tu es responsable ? D'accord ? Des membres de ta famille, de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta sœur et de ton fils. J'y quand bien même, Jacqueline. Quand bien même. Comment tu oses ? Comment tu oses ? Et elle m'appelle chez moi sur mon numéro privé, en dehors du boulot. Ce n'est pas une interpellation qui a eu lieu sur le lieu de travail. Je suis rentrée chez moi, c'était un vendredi, j'avais la tête comme ça, parce que tout le monde te regarde en te disant « Hé, explique, mais je suis désolée ». Mais quand il y a eu des faits divers où on voit une bonne femme qui a mis son bébé dans le congélateur, est-ce que toutes les femmes blanches, on leur a dit « Mais qu'est-ce que tu penses de ça ? Mais c'est horrible !» Est-ce que toutes les femmes blanches se sont dit « Ah, mais nous, femmes mères, mais c'est horrible, on est horrible !» Ah ben non, mais il faut qu'on explique. Alors elle, elle a fait, c'est très mal ce qu'elle a fait, mais nous, on ne fera pas ça, on condamne ce qu'elle a fait. Non, un individu a commis un acte grave, la société doit se poser des questions. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment, etc. Enfin, j'aimerais vraiment qu'on arrive à avoir une réflexion collective et qu'on arrive à sortir de ce putain de racisme primaire, en fait.
Mais on a tous, je crois qu'on a tous vécu un peu la même chose, où en fait, on a dû à un moment donné expliquer comment, en fait, on pouvait aller tuer des gens. Donc, il y a eu Charlie Hebdo, mais il y a eu le Bataclan. Donc, quand il y a eu le Bataclan, il fallait qu'on explique comment c'était possible que des gens comme nous pouvaient aller faire ça. Hein. Et en fait, on est tellement dénié dans notre francosité, notre citoyenneté, tout ça, qu'en fait, on se permet de nous poser cette question parce qu'en fait, on n'est pas comme les autres. On n'est pas comme les Français, entre guillemets. Et du coup, nous, on a la réponse à cette violence. Et on a tous eu à répondre à cette espèce de question qui n'était pas posée directement. S'il te plaît, tu peux m'expliquer, toi, la musulmane, comment c'est possible que ces mecs-là, ils aient fait ça ? Mais on se croit où, là ? En fait, on a été des victimes collatérales de tout ce qui s'est passé. Et ça, les gens, il faut qu'ils l'entendent. Et il y a eu des victimes, les victimes collatérales, les familles, tout ça. Nous, on était effondrés, les militants et les militantes. On était effondrés parce qu'en fait, c'était des années de lutte qui partaient en live ce jour-là. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, on est tous rentrés chez nous pleurer. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais au travail, on m'a demandé de rentrer chez moi tellement je pleurais. C'était énorme, c'était vraiment... Enfin, voilà. Et je crois que j'ai oublié la loi 2004. Et je ne l'ai pas dit, et du coup, c'est la pire. C'est celle qui nous a... Je crois que j'ai fait un déni. Enfin, j'ai fait une censure, je ne sais pas. Mais la loi 2004, elle nous a achevés. Et c'est là qu'on a compris qu'en fait, ce qui se passait, en fait, moi, je me souviens, à l'époque, je n'étais pas dans le militantisme, j'étais en train d'élever mes petits-enfants, ils étaient tous petits et tout. Premier truc qui me venait en tête, c'était punaise, on est en train de me voler ma citoyenneté, on est en train de m'enlever une de mes identités. Parce que quand une personne est née dans un pays, il a traversé une histoire, il a grandi avec des Pierre-Paul Jacques et Catherine et des machins et des Nadia et des Fatima, et qu'on lui dit ben toi maintenant c'est fini, l'école c'est ça, ou sinon t'es pas française. Mais ça a été d'une violence. Mais je crois que, en fait, toutes les autres lois, elles ont été violentes, hein, pour nous. Mais la loi la plus violente, c'est celle de 2004.
En plus, tout le monde le sait, c'était une loi qui était basée sur rien. Les sociologues l'avaient dit, c'était des épiphénomènes à l'époque. Il n'y avait pas tant de personnes voilées dans les écoles. Il n'y avait pas lieu de légiférer. Il y avait les sociologues pour le dire. Il y avait des tas d'enseignants aussi qui pouvaient régler ces histoires et tout. Et ils ont décidé de la faire, cette loi. Ils ont fait cette loi parce qu'en fait, c'était l'offensive. Ils se sont mis en posture de guerre contre un mythe, contre une espèce d'invasion, de machin. Enfin, en tout cas, c'est le discours qu'ils avaient envie de faire passer. Et ça, je pense ça a été aussi violent que Charlie, le Bataclan, Samuel Paty, enfin voilà. Et le discours 2010, Sarkozy, symboliquement, ça dit ce qu'on représente en fait dans la société. Ce que les descendants des pays colonisés, en fait, comment on est vu et comment on sera toujours vu d'une certaine manière, c'est-à-dire comme avec le code de l'indigénat, hein, on est des Français musulmans, hein, des Français, mais...
Bah là, avec la loi séparatisme, on retombe officiellement dans le statut de Français musulman de l'Algérie française. Là, c'est officiel, on va nous replacer dans une situation, on va dire que c'était officieux avant. C'était déjà le cas, mais là, ça va être officiel. Avec un ensemble de directives qui nous concernent, qui sont attribuées, c'est une loi complètement... qui nous replace dans ce statut-là, en fait. Et sur la loi, quand vous parliez des conflits, justement, moi, ça me fait penser, tous les conflits qu'on a eus à partir de Charlie, les attaques qu'on a eues individuelles. Alors moi, c'est marrant, avec un ami, on a reçu le même article de plusieurs personnes qui nous demandaient de nous positionner, que c'était un article qui critiquait l'islam. Et c'était un article qui avait été écrit par un Algérien. Donc on nous disait, regarde, il y a un Algérien qui a écrit ça, vas-y, positionne-toi. On a reçu le même article le même jour. Et ça a été des semaines comme ça où on a été attaqués individuellement de toutes parts. Et où des conflits, ça a été vraiment une série de conflits à partir de là. Et en fait, ça me fait penser à la loi de 2004. Apparemment, ça a été la même chose. Moi, je ne l'ai pas vécu comme je suis plus jeune, mais je n'ai pas vraiment de souvenirs. Mais ça a été vécu de cette manière-là. Par beaucoup de personnes, justement, parce que le débat du coup qui a été mis en place sur le voile, enfin un débat nauséabond qui a été mis en place par le gouvernement, qui n'était pas un débat en fait, qui était juste un lynchage de la population musulmane, il a créé des conflits au sein des familles, au sein des quartiers, au sein du pays, dans tous les sens. Et j'ai l'impression que c'est le début en fait d'une volonté en fait de l'État de nous mettre dans des situations comme ça de conflictuelles, de pas pouvoir s'organiser, de pas pouvoir discuter, de vraiment diviser. Mais au sein même des familles, au sein même des groupes, dans tous les sens, en fait. Et ça a vraiment fonctionné. Et Charlie, c'est devenu vraiment valider ces conflits-là. Parce que là, à partir de là, moi, je vois vraiment une série de conflits qui a commencé. C'est à partir de ce moment-là.
C'est là où les quartiers populaires ont été qualifiés de zones de non-droit. Il y a eu un vocabulaire guerrier qui était impressionnant. Et puis après, une fois de plus, ça retombe sur les femmes. Elles ne savent pas éduquer leurs gosses. Ils sont dehors de 7h à 20h à 22h. Enfin, du coup, je me suis dit, mais tiens, une fois de plus, que des attaques, que des petites attaques comme ça. Et comme elle le disait, Judas, oui, ça te met toi en tant que parent dans une situation où ton enfant, il entend tout le temps que ce que tu es, c'est de la merde. Et comment tu veux qu'il arrive à s'identifier et à apprendre ce que toi, tu lui transmets? Je vais dire, on a fait vriller aussi là, le cerveau de nos enfants. Et aujourd'hui, ça aussi, ça peut expliquer beaucoup d'échecs scolaires, beaucoup de nos enfants qui ont des problèmes de construction d'identité. Et après, des fois, moi, j'entends, c'est bizarre, quand on lui dit tu viens d'où, il se sent d'abord algérien, marocain, tunisien, malien, et que c'est pas quoi. Je dis, mais tous les jours, vous leur dites, t'es pas d'ici. Tous les jours, on te dit, t'es pas d'ici. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit, le gamin? Tu sais, on est des êtres humains, on a un minimum de fierté. Tu dis, ok, je suis pas d'ici. Après, tu l'assumes et tu accentues même le phénomène. Bon, ça, c'est le premier élément. Mais dans le deuxième élément, tout ce qu'on a vécu, on est toujours resté dans la séquence émotion. Et à aucun moment, on s'est mis à analyser. On s'est mis à analyser en se disant, mais comment un jeune de 20 ans qui a grandi dans un pays, d'accord? Quand on est jeune, on a 20 ans. Franchement, de vous à moi, 20 ans, on faisait quoi? Mon week-end, il commençait le jeudi. Boîte, 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 boîte. on s'amusait. À 20 ans, tu t'amuses. Mais pour qu'un jeune, à 20 ans, il a un tel malaise qui le pousse jusqu'à se tuer et entraîner avec lui d'autres personnes. Mais je dis, mais personne ne se pose la question. Il s'est radicalisé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est radicalisé. La société n'y est pour rien. Quand depuis la crèche, on te regarde, on te met au banc et que tu luttes. Et à un moment donné, on n'a pas une part de responsabilité. Quand vous êtes parqué sur des zones géographiques définies, style zone de non-droit, ceci, cela, où les règles de la République ne s'appliquent pas, la société y est pour rien. Comment on peut expliquer qu'il y a des écoles, dans la classe, tu regardes, il n'y a pas de mixité. Il n'y a pas de mixité. Et après, on vient dire, ah ben tiens, il parle avec un espèce d'accent. Eh ben, ils sont en échec scolaire. Ah ben là, ça ne marche pas. Non, mais on va leur donner plus de moyens. Qu'est-ce que c'est que ces moyens? L'école qui est à côté, ils n'ont absolument pas les mêmes moyens que l'école internationale de Grenoble. Et c'est mes putains d'impôts qui payent les deux écoles. Au nom de quoi? Au nom de quoi?
On va faire une pause musicale et on va écouter.
J'avais pensé à Barba Papa de Médine, spécialement pour les identitaires, qu'il a sorti récemment. Petite dédicace.
Ça m'a répondu, c'est peut-être les identitaires.
On a grandi dans la ZUP, de toutes les couleurs comme une boîte de dragibus. C'est vrai que dans les tubes, s'il y avait de la poudre, et ben c'était pas du sucre. La conso dans les sachets, 2-3 fraises, tagada et quelques têtes brûlées. Faut jamais que vous sachiez à quoi servent le taga et les feuilles à rouler. On a grandi dans la zone, vendu leur église. Il y avait plein de bâtiments faits en pain d'épices. Les bracelets de la police étaient des friandises. On mangeait leurs coups de matraque comme de Mr. Freeze.
Opération communication pour ces membres du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire.
L'ennemi, c'est de la guimauve. Mais la pierre de la main d'un ennemi, c'est de la guimauve.
La barba papa, la barba papa, nous on aime que ça. La barba papa, au prochain danse des on veut marier mon pignata. La barba papa, la barba papa, nous on aime que ça. La barba papa, au prochain danse des on veut marier mon pignata.
Mes robes, mes asiates, comme un mal à barbigou. Une gueule de yakuza, mais je dis ça, la marre les coups. T'as déjà mélangé les manteaux, c'est le coca. C'est Emma 2S, Sarah Bian, Son Gokan. J'arrive au quartier, croise une petite miniardiste. Je lui offre un chocolat, elle veut un Kinder surprise. Ce sera pas du gâteau si je te pitche la suite. Je l'ai abandonné pour une partie de Switch.
Aujourd'hui, je suis le fils de Medin, mais demain, c'est Medin qui sera le père de ma soude. De lui, j'essaierai de me montrer digne. J'irai chez le dentiste avec du sel dans la bouche.
Tellement punché dans moi, caché comme les phrases dans les biscuits chinois. Je veux l'avenir de ce monde, leur dernière vision serait une barbe et des tombes.
La barba papa, la barba papa, nous on aime que ça. La barba papa, au prochain danse des on veut marier nos pignotas. La barba papa, la barba papa, nous on aime que ça. La barba papa, au prochain danse des on veut marier nos pignotas.
La barba papa, la barba papa,
que on veut ça.
Marine en pignata.
Ah oui, on veut marine en pignata.
Donc c'était La Revanche des Hérissons. On vient d'écouter l'émission de Dégenré, le deuxième volet sur l'islamophobie. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette émission. À la semaine prochaine.
Tchuss.
Salut.
Salut.
La Revanche des Hérissons sur Jet FM 91.2.